Radio Germaine.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Germaine Sport. Votre émission préférée s'était absentée pour cause de vacances et de révision de galop aussi, mais maintenant nous sommes bien de retour pour faire le récap de l'actualité sportive. Et alors, résultat de 3 oblige, je me dois de présenter ce plateau comme un plateau de futur britannique aujourd'hui, puisque les deux personnes qui m'accompagnent et moi-même seront outre-Manche l'année prochaine. Salut Julie!
Hello! Ouais, bah pour ma part, ce sera petite 3 à Édimbourg.
Sympa!
Préparez-vous pour un retour sur les matchs de 6 nations, mais en direct live.
Mais c'est exactement ça qu'on veut.
Un envoyé spécial.
Un envoyé spécial des matchs de 6 nations. Et salut Thérésia!
Salut à tous, pour ma part, ça sera Manchester. Donc, petit tour des stades de première ligue pour mon compte. Donc, ce sera top.
C'est bien, c'est très représentatif des sports que vous suivez.
Oui,
voilà,
c'est ça.
Le foot ça, pour Thérésia.
Choix 3.
Ah, peut-être. Et ben, pour ma part, ce sera Londres. Donc, pareil, j'aurai de quoi m'amuser niveau sport, même si je suis pas très foot. Je suis pas très rugby non plus, donc je sais pas ce que je fous en Angleterre. Mais, voilà, on aura quand même de quoi s'amuser. Donc aujourd'hui, bah, équipe réduite, puisque nous sommes que 3, mais programme chargé, puisqu'on va parler foot, rugby, F1 ou encore biathlon. Mais on va commencer avec le cyclisme, n'est-ce pas Julie?
Et oui, donc un petit retour pour commencer sur les résultats récents. Donc on s'était quitté sur le départ imminent de Lomloop Etnieuwsblad à la fin de la dernière émission. C'est désormais chose faite, puisque c'est donc Jan Tratnik de Visma Liseberg qui l'a emporté. Podium complété par Niels Politt et Wout van Aert. Et la Visma Liseberg qui fait totalement son festival sur cette course-là, puisque chez les femmes, c'est Marianne Vos qui a remporté la course pour sa première participation, c'est à noter. Autre échéance qu'on attendait beaucoup, c'était les Strade Bianche. On est d'accord pour dire que Pogacar a totalement tué le suspense.
C'est-à-dire que quand tu arrives sur la course, tu restes, tu vois, il reste 80 bornes, Pogacar a déjà une minute 30 d'avance, bon bah voilà.
Je pense que si on reprenait nos messages du jour de la course,
ouais.
C'est quoi ça?
C'est-à-dire que bon, en fait c'est un peu compliqué, parce que d'un côté c'est bien d'avoir ces grands raids, genre c'est toujours, enfin... C'est hyper impressionnant, c'est des performances individuelles hyper impressionnantes, mais du côté spectateur, surtout quand derrière la poursuite s'enterre... Voilà, franchement, c'était pas, on va dire que c'était pas la course la plus funky à suivre. C'était pas.
Et puis bon, un petit peu la même chose sur la course féminine, puisque c'est Lotte Kopecky du coup qui l'a remporté, donc la championne du monde en titre. Là, on est un peu pareil, la redite des grosses équipes et des gros noms du peloton. Mais un peu plus d'émotion, on va dire, sur Paris-Nice, puisque on était toutes les deux donc sur le départ et l'arrivée en fait de la première étape. Très sympa, hein, comme on avait fait l'année dernière, on en avait parlé aussi, je crois.
Absolument, très sympa. Bonne organisation, en tout cas moi j'ai trouvé un peu mieux que l'année dernière, donc c'était vraiment cool.
Le trajet en Transilien.
On a découvert des nouvelles lignes de Transilien, c'était superbe. Franchement c'était vachement bien.
L'étape remportée ensuite par Olaf Kuss, donc
exactement.
Assister au sprint final, c'est toujours aussi impressionnant.
Ah oui.
En vrai.
Totalement.
Et puis la suite de la course, donc qu'on a suivi à distance évidemment, mais
nous ne sommes pas allés à Nice bizarrement.
Étonnant. Mais ça n'a pas manqué de retournement de situation, je dirais, ou du moins de péripéties. Donc on a eu le contre-la-montre par équipe qui a été remporté par UAE Team Emirates. On a vu quelques déboires du côté de la Soudal Quickstep qui avait emmené Remco Evenepoel, mais voilà, il y a eu quelques couacs de leur côté. À mon plus grand désespoir, la chute de David Godu.
Une chute, on devrait dire un mot sur cette chute, je pense.
Ouais. Qu'on peut qualifier de bête, quoi.
Bête, puisque bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il est tombé en voulant enlever sa veste.
Dans une cote à fort pourcentage.
Exactement.
C'est tout de suite compliqué d'enlever les mains du guidon.
Voilà.
Il monte à 13%.
Bizarrement, peut-être il aurait fallu penser, quoi. Ouais. Et il a fait aussi tomber quelques coureurs qui étaient à ses côtés, donc il perd 6 minutes sur l'étape et puis il a abandonné, je crois, la dernière étape. Ouais. Il n'a pas fini par Nice.
Donc,
ça va?
Moi j'ai l'habitude de supporter des sportifs où ça part toujours en cacahuète à un moment ou un autre. Non, mais après, c'est dommage parce qu'enfin, Paris-Nice c'est toujours un peu le révélateur de où se trouve chacun avant le.
C'est un premier vrai gros test de la saison, quoi.
C'est dommage, mais on va espérer qu'il se relève. Après, on a eu quand même la quatrième étape où, pareil, je pense que si on reprenait nos messages, on verrait le suspense, puisque le peloton s'est fait surprendre par l'échappée avec la victoire de Santiago Buitrago, donc de la Bahreïn, oui, et de Luke Plapp. Étape bah, plutôt intéressante et plutôt cool. Des fois, ça change un peu de...
Ouais, le scénario était bien. Bon, j'avoue que j'ai surtout regardé un petit peu la fin, mais oui, non, c'était bien de justement de d'avoir le prime aux audacieux, si j'oserais dire. Ouais. Voilà.
Belle expression.
Ah ouais, c'était expression de commentateur. parce que oui, c'est vrai que bon, on a un peu l'habitude de voilà du peloton qui annihile toutes les tentatives d'attaque. Donc là, c'était vraiment bien de les voir s'imposer. Enfin, c'est Buitrago qui a gagné.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Bah, et puis après, même au général, enfin, jusqu'avant, enfin, la veille de la dernière étape, les deux premiers étaient séparés de seulement 4 secondes. Donc, bah, Magnulti pour UAE et Jorgensen pour Visma. Donc, finalement, c'est Matteo Jorgensen qui l'emporte avec Remco Evenepoel deuxième, du coup. Evenepoel qui remporte la dernière étape à Nice et les maillots du classement par points et du meilleur grimpeur.
Ouais, tout sauf le maillot jaune finalement.
Ouais, mais ça va du coup. Enfin, il a lui-même dit que bah effectivement avec une arrivée à Nice sur la promenade des Anglais comme ça va être le cas pour le Tour de France cet été, c'est plutôt bon signe.
Ouais.
Ça laisse présager un tour.
Oui, c'est ça. Surtout que cette année c'était vraiment une répétition vu que.
Ah oui, c'était vraiment.
Comme cette année le Tour n'arrive pas à Paris. C'était vraiment la répétition générale pour l'arrivée à Nice.
Comme d'habitude, Paris-Nice, qui est une course révélatrice, c'est vraiment le gros test du début de saison.
Ouais, on l'a vu même pour d'autres membres du peloton, comme Primoz Roglic, qui... Pas qu'on n'a pas vu, justement, qui voilà, qui courait sous ses nouvelles couleurs de la Borinthgro, et que oui, on n'a vraiment pas vu beaucoup, hein, voire même pas du tout.
Après, il reste un moment chez Visma, donc il faut aussi prendre les automatismes.
Bien sûr.
Changement d'équipe.
Mais c'est aussi un coureur qui a l'habitude d'être très performant en début de saison. Donc ne pas le voir à l'attaque et à son aise sur Paris-Nice,
ouais.
Je sais pas si ça présage de bonnes choses. Nous verrons.
Voilà. Toujours nos petites spéculations.
Ah bah, des conclusions. qui conclut ?
Bon. Ok, bon. L'autre rendez-vous se trouvait du côté de Tirreno-Adriatico, que ce soit pour les sprinters et pour les leaders, puisqu'on a vu les victoires de Jasper Philipsen ou Jonathan Milan pour la Lidl Trek, mais aussi Jonas Vingegaard qui a démontré sa forme sur cette compétition en remportant la 5e et 6e étape et le général final. Encore une fois, c'était un peu l'autre gros test pour ce début de saison, et là, il démontre qu'il est là. Et...
Bah, en fait, finalement, ça, pour moi, ça montre, alors peut-être Remco un peu moins, mais pour Pogacar et Vingegaard, c'est vraiment une espèce de duel à distance sur différentes courses. Alors, Pogacar n'était pas sur les courses à étapes, mais voilà, une espèce de duel à distance de qui fera la performance la plus impressionnante et qui, voilà, écrasera le plus la course. Bon, pour l'instant, un balle au centre, hein, je pense, entre les deux.
Ouais.
Et une opposition, du coup, qu'on retrouvera eh bien, sur le tour, hein, entre Vingegaard et Pogacar, qu'on a l'habitude, avec Remco et Evenepoel, peut-être en troisième élément perturbateur, absolument. Mais voilà, en attendant, c'est ce duel à distance sur ces courses au début de saison. Et les prochains événements à venir en vélo, eh ben, c'est l'heure du premier monument de la saison avec la Primavera Milan-San Remo ce week-end. Donc voilà, 300 km entre bah, Milan et San Remo, comme son nom l'indique. On suivra ça, Julie ?
Bah évidemment, on va avoir le... Enfin, personnellement, moi je mets Eurosport, sans citer le contenu que je regarde, mais toute la journée, avec les commentaires à fond pendant
c'est
8 heures.
C'est dimanche.
C'est 16, je crois.
Mais nous serons en galop, donc nous n'allons pas pouvoir passer notre journée sur Milan San Remo.
Ah non, premier degré, je voulais vraiment le faire.
Oui, mais je sais que tu voulais vraiment le faire,
On sera en galop d'histoire.
Bah, on suivra entre midi et 14h30.
Sciences Po m'empêche de...
Voilà, c'est honteux. Bon, on passe au foot maintenant avec Teresa qui va un peu nous parler des clubs français en Coupe d'Europe.
Oui, donc cette semaine, on va faire le bilan de nos clubs français en Coupe d'Europe. Alors malheureusement, il ne reste que 3, Lille en Conference League, Marseille en Europa League et le PSG en Ligue des Champions. Donc on va tout d'abord commencer avec Lille qui a fait un joli coup à l'extérieur contre l'équipe autrichienne Sturm Graz, désolé pour la prononciation, lors de son match aller de 8e de finale, 3-0. Le match retour se déroulera donc la semaine prochaine à la maison pour Lille, mais Lille semble déjà avoir un pied en quart de finale. Ensuite, en Europa League, grosse surprise, Marseille qui étrille 4-0 l'équipe espagnole de Villarreal, qui est actuellement 11e en Liga, avec notamment un doublé d'Aubameyang. Il faudrait donc un miracle pour voir une élimination de Marseille au match retour. D'ailleurs, à noter que Marseille se retrouve dans une belle série de victoires avec l'arrivée du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Donc c'est 5 matchs, 5 victoires et 18 buts marqués. Enfin, le PSG, je pense que vous le savez tous, mon équipe de cœur. Je suis très contente d'être au studio pour annoncer que, après 3 ans d'élimination en 8e de finale, le PSG retrouve enfin les quarts de finale avec un petit doublé de Mbappé, un but en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Quel roi. Malheureusement, j'ai personne.
Qui part à la fin de saison, mais oui.
Qui part à la fin de saison au Real Madrid, apparemment. Mais on va un peu profiter ces derniers mois. Malheureusement, je n'ai personne avec qui parler au studio.
Non, mais oui, en fait, j'ai l'impression que ça fait tellement d'années qu'on vous vanne. Ouais. Moi, je me rappelle de 2017.
J'étais... Ah, tu me fais mal
ouais,
au cœur.
Je sais. J'étais en quatrième, j'avais un pote très très fan aussi. Forcément, le lendemain de la remontada, on l'a vanné comme jamais.
J'en ai plus. J'ai coulé des larmes.
Oui, bien sûr. Mais du coup, ça me fait un peu plaisir après tant. J'ai pas d'amitié particulière pour le PSG, mais après tant de galères, on compatit,
voilà,
franchement.
C'est vrai. Non, mais franchement, c'était 3 ans difficiles. Et c'est vrai que Enrique est venu avec un nouveau souffle, une nouvelle dynamique qu'il a su porter à l'équipe. Et on voit que même Mbappé est un joueur où on sait qu'il va partir à la fin de l'année. Il est toujours ancré dans le projet et il se montre vraiment porteur d'une dynamique, d'un souffle, et on le voit même les images en tant que capitaine qui vient et qui donne une certaine dynamique à l'équipe. Donc malgré les nombreux débats qu'on peut voir sur la gestion de Mbappé avec Enrique qui le met souvent sur le banc, on voit que Mbappé n'en tient pas rigueur et il sait que il est là pour la Ligue des Champions. Bon, les gens vont dire c'est que Real Sociedad en face. Oui, c'est que la Real Sociedad, mais quand on a tiré la Real Sociedad, les gens ont dit attention, peut-être une défaite surprise. Donc on ne sait pas. Quand c'est le Real Madrid en face, on dit lui le PSG, attention, ça reste une grande équipe. Quand c'est Real Sociedad en face, on dit oui, c'est une petite équipe. Donc c'est un peu compliqué avec le PSG.
L'important, c'est de gagner de toute façon.
Oui, de toute façon, l'important, c'est de gagner. On est en quart de finale. On sait que ça reste la Sociedad en face et que en quart de finale, on risque d'affronter un gros. On sait que le Bayern s'est qualifié, Manchester City, il reste des grosses équipes comme Arsenal, PSV, Inter qui est dans une très bonne dynamique. Donc on sait, voilà, le projet parisien, on sait que cette saison c'était une saison de transition. Là c'est les quarts de finale, on sait que bah, personnellement les quarts de finale, même si on est éliminé, je serais fière de mon équipe parce que quand on se rappelle des phases de groupe où on était à deux doigts d'être éliminé avec Milan, Dortmund, voilà, je suis très fière d'eux. Donc il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir l'adversaire du PSG en quart de finale. Bon, moi, tout le monde veut un petit PSG Real Madrid pour voir l'histoire entre Mbappé et son futur club. Moi, je ne fais pas de pronostic, j'espère juste un beau match.
Eh ben, merci beaucoup, Thérésia. On reste dans les bonnes nouvelles puisque le 15 de France a enfin sorti la tête de l'eau hier soir contre le Pays de Galles.
Tout à fait, donc bah, petit retour sur le tournoi Destination. Hein. On s'était quitté sur la dernière émission à l'issue de la première journée. Alors après sa défaite contre l'Irlande, le 15 de France l'avait quand même emporté face à l'Écosse, mais avait fait un match nul face à l'Italie. Donc on n'était pas sur une lancée hyper... on savait pas trop où se situer. Et finalement, donc à l'heure où on enregistre hier soir, donc c'est tout frais, le 15 de France a remporté son match contre le Pays de Galles. À noter également que le match nul face à l'Italie semble un peu moins surprenant maintenant, puisqu'on voit la forme de l'équipe italienne qui s'est confirmée, puisqu'ils ont remporté leur match suivant contre l'Écosse. Alors concernant le classement, mené par l'Irlande, mais qui sera privé du grand chelem, c'est à noter, puisqu'elle a connu la défaite face à l'Angleterre qui la suit au classement. Et donc pour revenir sur le 15 de France, hein, donc effectivement, comme tu l'as dit, Zélie, on relève un peu, on sort la tête de l'eau, avec un 15 remanié. Hein, Ramos, par exemple, était en 10, il y avait la présence de jeunes joueurs comme Nolan Le Garec, seulement 21 ans et qui a fait sensation, mais aussi Nicolas Deporter, 21 ans aussi, Léo Barré, du même âge en fait. Donc Nolan Le Garec, je le disais, qui s'est vraiment montré sur ce match. Il a été désigné homme du match pour sa première titularisation. Donc voilà, vraiment, il a été auteur d'actions décisives, même d'un essai. Alors personnellement, si je dois donner un petit peu mon avis sur ce match, je disais la dernière fois que c'était assez mitigé. Mais là, je trouve que le jeu a quand même été plus enthousiasmant. On a retrouvé un peu les étincelles et le suspense que le 15 de France avait l'habitude de montrer. Ça fait plaisir à voir. Surtout, ça montre qu'on peut un petit peu renouveler l'équipe et y trouver notre compte en fait dans ce tournoi. Après, ça reste à relativiser. Hein. C'est des modifications qui ont tardé à arriver dans l'équipe. Voilà, c'est des matchs précédents l'ont montré. Et puis surtout, le Pays de Galles n'a remporté aucun de ses matchs durant ce Six Nations, donc c'était pas non plus le plus gros adversaire imaginable. Ça va plutôt être le cas pour la dernière journée du tournoi, donc qui se déroulera le 16 mars, puisque la France va affronter l'Angleterre, et on aura donc un match Irlande contre Écosse et Pays de Galles contre Italie. Ça reste anecdotique, mais le 15 de France reste en lice pour la victoire finale, puisqu'elle est quatrième ex-aequo avec l'Écosse à 11 points, précédée, comme je le disais, donc de l'Irlande et de l'Angleterre. Donc encore une fois, des perspectives de dernière journée qui vont être intéressantes, et tout reste à jouer en fait.
Revenons en France un peu avec le top 14.
Et oui, donc le classement actuellement mené par le Stade français ex-aequo avec le Stade toulousain, suivi de La Rochelle et de l'UBB, avec Perpignan et Oyonnax qui luttent en bas de tableau. Concernant les derniers résultats, donc La Rochelle l'a emporté face au Stade français, et on a eu un match nul de Clermont contre Oyonnax, donc pas un bilan hyper positif pour l'ASM, mais Perpignan qui se remobilise et qui l'a emporté à domicile face au Stade toulousain. Le Racing 92 qui a également fait une bonne opération face à Toulon en l'emportant 20-6 et qui reste donc 6e du classement. Concernant les prochains matchs, donc on aura un affrontement de bas de tableau, comme je le disais, Oyonnax qui va affronter Perpignan, Clermont qui se battra contre Pau, et un match aussi tout intéressant à suivre puisque l'UBB recevra le Stade toulousain. Donc évidemment, on vous tiendra au courant des prochains résultats.
On passe maintenant à la F1, et les courses se suivent et se ressemblent puisque Verstappen s'est encore imposé.
Et oui Zélie, ce week-end c'était la deuxième manche du championnat de F1 en Arabie Saoudite, et les Red Bull se sont à nouveau démarqués et l'hymne néerlandais a résonné de nouveau. Je pense le connaître par cœur, mais je pense que c'est le cas de tous les supporters néerlandais et de F1. En effet, victoire de Max Verstappen, le seul et l'unique devant Sergio Perez et Charles Leclerc qui complète le podium avec la Ferrari. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le championnat est plié. La Red Bull semble sur une autre planète encore cette saison avec Verstappen, mais aussi Sergio Perez qui suit et qui a été deux fois P2. La Ferrari qui, elle, semble être la deuxième force de la grille après un podium de Carlos Sainz lors de la manche d'ouverture à Bahreïn. C'est Charles Leclerc ce week-end qui se retrouve sur le podium. Même s'il était à des années-lumière de la Red Bull, bah ça montre à quel point la Ferrari est sur une bonne lancée. En évoquant Ferrari, l'homme du week-end n'est pas Max Verstappen, mais un jeune Britannique de 18 ans.
Tout à fait, puisque Oliver Bearman, donc, qui remplaçait Carlos Sainz à seulement 18 ans, a fait sensation, hein. Il se classe 7e, donc dans les points, devant de gros noms de la discipline, quoi. Hamilton, Norris, Lewis Hamilton, qui est allé féliciter personnellement le pilote après la course. Donc Carlos Sainz, qui n'était pas présent sur la course en raison d'une appendicite.
Après Alex Albon, Carlos Sainz.
Le sort s'acharne. Mais il était vraiment impressionnant sur la course, enfin... Ouais, se classer aussi haut déjà à seulement 18 ans, ça laisse penser à quand même un futur assez brillant pour lui.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a eu juste la séance des célèbres 3 pour s'acclimater avec la voiture. Ensuite, la qualification, il s'est positionné P11 à 36 millièmes des Lewis Hamilton. Et on voit à quel point il était un peu mécontent de sa performance. Ça montre comment... on peut aspirer à avoir un homme qui sera en F1 peut-être l'année prochaine chez Haas, on ne sait pas. Et franchement, je suis fière de lui parce que je suis beaucoup la F2, donc la catégorie inférieure à la F1. Et c'est vrai qu'on a des hommes qui aspirent à être en F1. Il y a Oliver Bearman, on sait qu'il y a Victor Martens chez Hart, il y a Isaac Hadjar. Bon, c'est des Français parce que on supporte les Français, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Kimi Antonelli, on en a déjà parlé. Mais voilà, c'est de voir à quel point on sait que le futur de la F1 est entre des bonnes mains. C'est vrai qu'il y a ce débat souvent, est-ce qu'on peut donner la place aux jeunes? Il y a beaucoup de pilotes qui sont là, on sait que Magnussen, Hülkenberg, les gens en ont un peu marre et on aimerait voir plus de jeunes. Mais voilà, je suis très contente d'Oliver Bearman. Il a fait une course propre, c'est ce qu'on lui demandait, c'est ce que Fred Vasseur demandait, de pas vouloir faire des scènes de spectacle pour dire oui, il mérite sa place. Donc je suis très fière de lui.
Ouais, c'est bien si ça peut pousser un peu, comme tu disais, au renouvellement des pilotes. Enfin, c'est vrai qu'en F1 c'est assez compliqué, quoi, le renouvellement du paddock. Donc si ça peut un peu redorer l'image, même pas redorer, mais juste montrer une jeunesse.
D'ailleurs, cette saison c'était pour la première fois qu'il n'y ait pas de rookie de l'histoire de la F1. Ouais. Donc j'espère qu'on ne part pas sur cette base là. Non, mais très fier de Oliver Berman. J'aimerais aussi parler de l'Alpine, malheureusement. Bon, les gens peut-être ne savent pas, mais je suis une grande fan de Pierre Gasly. Et malheureusement, Pierre Gasly qui se retrouve 21e du championnat dans un championnat à 20 pilotes parce que Oliver Berman, Oliver Berman a pris 6 points et qui est actuellement 10e au championnat. Donc, c'est très bien. Non, l'Alpine qui est dans une série compliquée. On sait un début de saison très compliqué. Esteban Ocon et Pierre Gasly l'ont dit que le début de saison allait pas être fameux et qu'il fallait attendre un peu voilà le milieu de saison pour voir une Alpine qui s'améliore. Et on se rappelle aussi l'année dernière avec la McLaren, c'était la même chose. Lando Norris et Oscar Piastri qui partaient des dernières places de la grille, et au final lors du GP de Silverstone en milieu de saison, ils sont arrivés, ils ont fait des podiums. Donc on sait que voilà, il peut y avoir une évolution. On espère que ce sera le cas pour Alpine parce qu'on est français et on supporte les équipes françaises. Mais les Français peuvent se réjouir parce qu'en F1 Academy qui est un championnat pour les femmes, Doriane Pain, française qui élimine la catégorie, elle a fait une pole position et elle a gagné la première course du championnat. Malheureusement, lors de la deuxième course, Doriane Pain a été disqualifiée un peu bêtement parce qu'elle a repris le drapeau à damier deux fois, qui est synonyme de 20 secondes de pénalité. Donc voilà, on est un peu déçus parce que en soi, c'est pas de sa faute. Il y a eu un problème de radio d'après Doriane Pain avec ses ingénieurs. Donc voilà, ce sera pas un carton plein, mais dans nos cœurs, on sait qu'elle a gagné les deux courses. Donc on a hâte de voir la suite du championnat de F1 Academy. La deuxième course se déroulera à Miami en mars.
Merci Thérèse, du coup, pour ce point sur la F1, et on va terminer cette émission, non pas par du patinage, comme à notre habitude, parce que on n'a pas eu de nouvelles compétitions depuis la dernière émission, mais par contre par du biathlon, parce que oui, on s'était quitté début février avec le tout début des mondiaux et la victoire en relais mixte. Et bien cette victoire en relais mixte des Français n'a pas été la seule victoire de ces mondiaux, loin de là. Il faut souligner la performance exceptionnelle de Julia Simon lors de ces mondiaux, qui fait quand même une saison très bonne, peut-être un tout petit peu en deçà de l'année dernière où elle avait gagné le gros globe, mais là, sur les mondiaux, elle a vraiment brillé. C'est simple, elle a été médaillée à toutes les courses, sauf la Mastart où elle a fini 4e, donc c'était vraiment pas loin. Elle a été championne du monde, du coup, sur sprint et poursuite. Et alors, sur le sprint, on a quand même vécu quelque chose d'extrêmement rare, un quadruplé français avec 4 françaises dans les 4 premières positions, avec Julia Simon, Justine Brézaboucher, Lou Jean Monod et Sophie Chauveau en 4e place. Donc vraiment exceptionnel, enfin, il n'y avait pas de mots pour décrire ça. Justine Brézaboucher qui a aussi fait de très bons mondiaux, puisque en plus de cette médaille d'argent sur le sprint, elle prend le bronze sur la poursuite et elle devient championne du monde de la Mastart, elle qui est déjà championne olympique de ce format. Également pour continuer le festival de médailles chez les femmes, le bronze de Lou Jean Monod en Mastart, le relais femmes gagné évidemment, je dis évidemment même si ça pourrait pas, mais avec les résultats en relais et les résultats globaux des féminines cette année, elles étaient clairement favorites et elles ont assumé leur statut. Un autre relais gagné, décidément, c'était le single mix, donc ce format où il n'y a que deux biathlètes qui alternent, un homme et une femme qui alternent deux tirs et trois tours de ski. Donc là, pour la France, c'était Quentin Fillon-Maillet et Lou Jean Monod qui se sont donc imposés. Donc voilà, des mondiaux absolument exceptionnels chez les femmes. Chez les hommes, un peu à l'image de la saison, c'était plus compliqué pour les Français. Johannes Bö a vraiment dominé, facile, il a gagné toutes les épreuves individuelles sauf le sprint. Donc voilà, encore une très grande domination, Johannes Bö qui je pense a déjà gagné le gros globe, je ne sais plus. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, il est bien parti pour. Quand même, un motif de satisfaction, la médaille de bronze de Quentin Fillon-Maillet sur la Mastart, et la médaille de bronze du relais homme également. Voilà, une saison quand même compliquée hein, pour les biathlètes français, heureusement sauvés par les résultats exceptionnels des féminines, mais c'est vrai que chez les hommes, il y a eu beaucoup... On attendait plus de certains biathlètes, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet. À noter aussi qu'il y avait quand même un changement de staff cette année avec l'arrivée de Simon Fourcade en entraîneur. Donc voilà, faut laisser du temps, mais c'est vrai que la saison était quand même décevante par rapport à ce que les garçons nous ont habitués. Et alors maintenant, on termine la saison avec les dernières étapes de Coupe du Monde. La saison se termine la semaine prochaine. Là, on est sur la tournée nord-américaine et cette semaine, c'était l'étape de Soldier Hollow, donc aux États-Unis. Encore de très beaux résultats pour les Français, puisque, et Françaises, évidemment. Puisque chez les femmes, sur le sprint, Justine Brézaboucher s'impose, Lou Jean Monod fait 3e. Et sur la poursuite, c'est Lou Jean Monod qui s'impose et Julia Simon cette fois-ci qui est 3e. Donc voilà, un doublé sur chacune des courses. Et quand même, à noter, chez les hommes, enfin, des bons résultats, puisque c'est un doublé qu'on a eu en sprint homme avec la première victoire en carrière d'Éric Perrault, qui lui, pour le coup, fait vraiment une très bonne saison, et voilà, qui a eu ses premiers podiums et sa première victoire. Et deuxième, Émilien Jacquelin, qu'on n'avait pas vu sur un podium depuis longtemps. Émilien Jacquelin qui a récidivé sur la poursuite en terminant 3e, poursuite gagnée par Johannes Bö. Donc, dernière étape la semaine prochaine à Canmore, et on va avoir le dénouement des courses au Gros Globe. Chez les femmes, c'est encore très serré, puisque c'est Tendrevolt qui porte le dossard jaune actuellement. Néanmoins, Lisa Vitozzi, Justine Brézaboucher et même Julia Simon peuvent encore espérer avoir le dossard jaune. Tout va dépendre, voilà, des résultats de ces biathlètes-là, donc un dernier week-end qui s'annonce passionnant. Et c'est sur ces mots qu'on termine cette émission. On vous souhaite un bon courage pour vos révisions de galop et autres rendus de fin de semestre qui arrivent à grands pas. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes de Radio Germaine.
À plus.
À plus.